Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes lundi 28 mars. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. En vous disant ce matin, pardon, que c'est un autre matin assez froid. Avec de la faible neige, on a moins 11 degrés. Et il n'y a pas vraiment d'accumulation, mais quelques flocons ici et là. En soirée, ça demeure nuageux, minimum de moins 9. Et puis demain, mardi, encore couvert, un peu plus confortable, avec un maximum de moins 2. Et ailleurs au Québec, il y a des régions, je pense au Saguenay, où quand même, avec il y a un petit peu de neige, mais surtout des éléments de poudrerie qui peuvent déranger. Alors, c'est quand même une espèce de soubresaut de l'hiver. Faisons le point sur la guerre en Ukraine, qui en est à son deuxième mois. Tout de suite, on va aller parler avec Tetiana Ogarkova, qui est dans l'ouest de l'Ukraine. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
D'abord, on remarque, Tetiana, que l'armée russe a décidé d'utiliser des missiles plutôt que les avions militaires, parce qu'ils craignent évidemment la zone aérienne qui pourrait s'agrandir.
Vous avez tout à fait raison. On remarque ça depuis quelques jours déjà, qu'il y a de plus en plus de frappes sur des villes même éloignées de la ligne du front. On va dire, il y avait Lviv qui a été frappé vendredi, au moment justement où le président américain Joe Biden faisait son discours de l'autre côté de la frontière, en Pologne. Ensuite, il y avait la ville de Dubno qui a été touchée cette nuit, hier soir, et cette nuit, il y avait Lutsk, donc qui a été touchée. Donc, il y a beaucoup de missiles qui frappe des villes sans suite militaire, en quelque sorte, mais à la fois, on va demander des avions, puisque justement, il y avait un seul avion militaire russe abattu la nuit précédente, tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions. C'est-à-dire que la Russie continue cette guerre à distance, justement, pour sans risquer leur effectif militaire, et puis ça sans risquer leur avion, mais continuer à semer la peur et la panique parmi les civils ukrainiens, indépendamment du fait où ils se trouvent à côté de zones de combat, ou ils se trouvent très loin, en fait, à quelques centaines de kilomètres de la zone de combat. En fait, c'est la nouvelle stratégie utilisée par l'armée russe.
Ce qui est très frappant, c'est de voir la résistance des Ukrainiens. Il y a une capacité de contre-offensive, de contre-attaque qui fait que les Russes au sol sont à peu près incapables de bouger.
C'est vrai, et c'est lié au fait qu'ils étaient mal préparés à une opération de longue durée. On voit bien que leur opération était planifiée pour quelques jours seulement, mais pas pour longue durée. On voit des problèmes d'approvisionnement, de pétrole, de la nourriture. Et c'est vrai que sur la ligne de front qui s'étend sur des centaines de kilomètres du nord de Kiev jusqu'au sud, donc ils n'arrivent pas à faire de la performance, si on peut dire comme ça, militaire. Et donc l'armée russe, l'armée ukrainienne continue à contre-attaquer et parfois après succès, par-ci, par-là. Bien sûr que ça crée la peur que cette guerre, malheureusement, peut durer encore. Pour les civils, ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce qu'on n'arrive pas à avancer d'une manière rapide puisque l'armée ukrainienne a toujours besoin de soutien militaire et surtout des armes de contre-attaque contre les Russes. Donc, c'est-à-dire les chars et les avions militaires qui sont pour l'instant toujours refusés par nos partenaires occidentaux, notamment par les États-Unis. Ça on a entendu encore une fois ce matin. Mais voilà, petit à petit, l'armée ukrainienne reprend le contrôle au sol.
Maintenant, parlons du président Zelensky. Il a accordé une entrevue à des journalistes russes d'opposition. Puis en même temps, il commence à parler de compromis. Mais ça, c'est un très, très long processus.
Exactement. Donc hier, on était très, c'est avec grand intérêt qu'on a écouté cette interview qui durait 1h30 accordée aux 4 journalistes russes d'opposition, c'est-à-dire les médias qui sont déjà interdits en Russie. Donc on a déjà vu que cette interview était interdite en Russie. Donc il a expliqué que il a essayé de revenir aux fondements, aux raisons d'être de cette guerre, en disant que voilà, la Russie avait exigé plein de choses, notamment dénazification, démilitarisation. Ça, elle a dit que c'est pas une question de compromis. Ensuite, il a évoqué, par exemple, le statut de la neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire que son non-appartenance à l'OTAN. Il a dit que ceci, on peut discuter, mais il a très bien expliqué en détail comment ça peut se réaliser. Ça peut se réaliser avec les garanties stables de pays occidentaux, notamment les pays avec la puissance nucléaire. Voilà, donc il a mentionné Grande-Bretagne et les États-Unis comme alternative, si vous voulez, à l'OTAN. Et ensuite, le processus juridique en tant que tel, il pourrait durer pas plus qu'une année, en fait, puisqu'on est un pays démocratique. Ce n'est pas, ça revient pas au président de décréter une neutralité. C'est un processus qui passe par le Parlement et par le référendum, puisque l'appartenance, donc la direction de l'Ukraine vers l'OTAN est inscrite dans la Constitution. Pour changer la Constitution, il nous faut plus qu'une année et toutes les procédures démocratiques respectées. Et pour commencer les procédures démocratiques, il faut justement que les troupes étrangères, notamment les troupes russes, quittent au plus vite le territoire ukrainien. Donc il a expliqué donc, que les volontés russes ne peuvent être réalisées qu'au prix de retrait total et immédiat des troupes russes. Voilà ce qu'il a expliqué.
Merci infiniment, Tatiana Ogarkova, qui est dans l'ouest de l'Ukraine. Rendez-vous avec elle demain. Peut-être quelques notes qu'on peut ajouter concernant la situation en Ukraine. D'abord, les Ukrainiens sont assez convaincus qu'une des stratégies de Poutine, ce serait de diviser le pays, donc des territoires qui sont déjà sous contrôle des pro-russes, et de faire en sorte que l'Ukraine se retrouve dans le même contexte géographique que la Corée après la Deuxième Guerre mondiale. Entre-temps, il y a des explosions qui sont rapportées à Kiev très tôt lundi matin. Et peut-être ajouter sur, disons, les propos tenus par le président Biden dans son discours samedi à Varsovie, où il a dit que le président Poutine était finalement un boucher et que c'était une bataille entre la démocratie et les autocrates, et qu'il n'était pas question de laisser l'OTAN à la menace, faire face à la menace des Russes, et que les Américains et les Alliés vont toujours défendre, quoi qu'il arrive, les pays membres de l'OTAN. Je lisais ce matin dans le New York Times qu'il y a 9 mots qui ont été utilisés par le président Biden qui n'étaient pas prévus. Il est sorti de son discours à 9 reprises. Et ce qui a amené, si vous voulez, des réactions où des conseillers ont tenté un peu de calmer le jeu et d'amenuiser les propos du président américain. Il y a le président français Emmanuel Macron qui a dit hier dans une entrevue télévisée que c'est le genre de mots qu'il ne faut pas utiliser, que lui veut garder un canal de communication avec le président Poutine. Même genre de réaction de la part de l'Allemagne. Et puis un mot sur ce reportage de Radio-Canada qui confirme ce qu'on voit depuis le début de cette guerre concernant la façon dont le Canada gère les gens qui veulent venir ici, des Ukrainiens, qui se retrouvent à Varsovie, et ça prend du temps, ce sont des formulaires administratifs. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a raconté dans une des ambassades canadiennes, il voulait faire un... En fait, il y avait de la difficulté à faire un virement compte tenu des comptes bancaires, il a offert de payer comptant, c'était pas possible. Tout ça, là, jamais le Canada se place dans un mode compassion et en mode aide pour les gens qui veulent venir ici au Canada. Alors, il semble que quand on regarde les procédures, là, les formulaires, ça demeure extrêmement compliqué. Alors, regardons maintenant le dossier COVID, parce que hier, point de presse du directeur national par intérim de la santé publique, Dr. Luc Boileau, un tout petit point de presse. D'ailleurs, c'est quand même un peu étonnant de dire, on convoque les médias, 11 heures, puis quand c'est le directeur, tu t'attends à ce qu'on annonce peut-être des mesures, ou à tout le moins, ça devait être important pour faire ça un dimanche. Puis essentiellement, il nous a dit que on voit une augmentation des cas, puis que probablement, ça va continuer pour les prochaines semaines, et que le réseau de la santé est particulièrement affecté. C'est une hausse de travailleurs absents, là, de 60 % en une semaine. On a déjà eu plus de travailleurs qui étaient chez eux en raison de congés, de maladies, COVID et autres. Mais quand même, ça a grimpé pas mal, premier constat. Et le deuxième, c'est qu'on voit beaucoup de cas dans des régions un peu plus éloignées du Québec, dans l'est du Québec notamment. Alors là, évidemment, tu te dis, est-ce que ça veut dire qu'on se prépare pour des nouvelles restrictions? Ben non, pas pour l'instant. C'est toujours la même chose. Si vous avez la COVID, restez en isolement pendant 5 jours. Et après ça, ben, soyez prudent pendant 10 jours au total. Et savez-vous quoi? Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, pardon, c'est un appel au gros bon sens. Vous êtes vulnérable. Vous fréquentez des gens vulnérables. Vous vous dites, j'ai une responsabilité à part ma douce personne. Et c'est quoi porter un masque dans un endroit qui est clos? Ou encore, si vous décidez de visiter, par exemple, un parent qui est à risque. Puis on peut parler des gens qui ont un état de santé peut-être fragile, puis on peut aussi parler des gens qui sont non vaccinés. Tout ça pour dire que hier, on a dit, il n'y a pas de nouvelles restrictions. Ce qu'on voit ailleurs, c'est en parallèle avec les cas, quand même certains assouplissements. Et ça veut dire que, grosso modo, le portrait pour l'instant est pas si mal. Puis est-ce qu'avec le beau temps, quand la chaleur va s'installer, on va avoir un meilleur contrôle? Mais moi, j'ai une question ce matin. Je vais la télégraphier, là, parce que je sais qu'ils sont à l'écoute. Mais comment ça se passe dans les hôpitaux? Puis je demande au personnel aussi de m'écrire, là. Est-ce qu'on se promène d'une zone COVID, non-COVID? Est-ce qu'on a encore des enjeux d'équipement de protection? Moi, il y en a qui me prétendent, qui en fait, qui m'écrivent me dire ça. Que vrai, je sais pas. Mais je comprends qu'on est dans un hôpital. Je comprends que ses employés sont aussi des parents. Tu sais, on regardait en fin de semaine, là, ça commence jeudi avec François Legault, pogne la COVID. Ensuite de ça, François Bonnardel, Geneviève Guilbeault, son enfant à la COVID, le maire de Laval. Bon, il va y en avoir de plus en plus de gens là qui vont développer la COVID. Est-ce que dans le réseau de la santé, pour que ça augmente aussi vite que ça, il y a un enjeu, peut-être dans les résidences pour personnes âgées, c'est pas trop, mais je vous pose la question, et peut-être m'éclairer. Et d'ailleurs, ce matin, alors que nous sommes à 24 heures, en gros, du dépôt de la grande réforme du système de santé par le ministre Christian Dubé, il y a deux nouvelles qui méritent qu'on s'y attarde. D'abord, dans la presse, on constate la fermeture de résidences privées pour aînés. Ça n'arrête pas depuis le début de la pandémie. Toujours la même chose, problème de recrutement. Surtout qu'on a augmenté les salaires au public. Hausse des coûts tout court, là. Et ça veut dire situation financière tendue. C'est dans la presse qu'on peut lire ça ce matin. Et selon le plus récent bilan compilé par leur association, 118 résidences ont mis la clé sous la porte entre janvier et novembre dernier. C'est quand même pas mal. Et on note ça beaucoup pardon, dans des régions comme Chaudière-Appalaches qui, à elle seule, a perdu 12 résidences en 2021. Donc, difficile de recruter, difficile de faire face à l'augmentation des coûts. Il y a un médecin qui est propriétaire d'une résidence, d'une RPA, puis souvent, ce sont aussi des gens là qui ont besoin d'un certain nombre de services. Et quand on regarde ça, il dit, avec l'augmentation des coûts, le fait que la prime de 4 $ l'heure va finir le 16 avril, il dit, ça me coûterait 2 millions par année, puis je suis pas capable. Puis là, il y en a combien de gens qui nous écoutent, là, qui sont obligés de déménager sous peu vers un autre endroit parce qu'on n'a pas de personnel. Puis là, les gens apprennent ça à dernière minute souvent, là. Puis on sait à quel point c'est important la stabilité pour les personnes âgées. Donc, première nouvelle, là, à la veille de la présentation de la réforme, on fait quoi avec les résidences pour personnes âgées? Puis là, on a un cas ce matin, puis c'est sûr que ça va rebondir, c'est dans le Journal de Montréal. Une femme qui souffre d'un cancer, elle a des métastases, et ils l'ont parquée à l'urgence parce qu'il n'y avait pas de lit. Elle est restée là 4 jours sur un lit dans le corridor à l'urgence. Là, c'est une femme qui doit être opérée pour un fémur fracturé. Puis en plus, elle a le cancer solide, là. 4 jours. Et semble-t-il que n'eût été de l'appel du Journal de Montréal, peut-être qu'elle sera encore là. Fait que, Quand je vois le plan qui a coulé un peu la semaine dernière, là, on est pour ça, là, les grands principes de dire il faut que les gens aient accès, puis il faut que les médecins acceptent de voir plus de patients. Tout ça est vrai. Maintenant, ça va marcher comment? Comment on va faire pour que j'ai accès à un médecin de famille ou un professionnel de la santé, que j'ai pas des délais à plus finir pour une chirurgie, que ça roule à l'urgence. J'ai vu le reportage de Radio-Canada, puis j'ai déjà lu là-dessus pas mal sur la Norvège, puis on peut ajouter la Suède. Mais il y a y a comme un certain ticket modérateur avec un plafond qui est imposé. Mais les gens payent, mais les gens ont un rendez-vous rapidement. C'est sûr que c'est pas tout à fait pareil. Il y a plus de médecins, les médecins gagnent moins cher là-bas, mais ce que je veux dire, c'est que le ministre Christian Dubé a plus qu'un défi, là. Bouger ce mammouth incroyable, qui est une patente bureaucratique assez lourde. Là, on voit le nombre de sous-ministres ce matin qui ont augmenté durant la période de la pandémie. Maintenant, on va recevoir un peu plus tard ce matin Gabriel Duchesne, Ariane Lacourcière et Katia Gagnon pour parler de leur livre sur l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée. Ce qui est, vous le savez, une horreur totale. Et on n'a même pas la réponse à la question, mais pourquoi, on l'a un peu, là, mais pas tant que ça, pourquoi on a transféré autant de gens en sachant qu'on n'était pas équipés? Puis là, ça veut dire que les ministres Mécan, Marguerite Blais, puis là, ajouter la bureaucratie autour de ça. Tu sais, dans le fond, on va se le dire, là, personne n'écoutait Marguerite. Ça n'a pas d'impact. Fallait trouver des lits. Puis même quand on n'avait plus besoin de ces lits, on sortait les patients, puis on les envoyait dans des endroits. Et les témoignages recueillis par les trois journalistes de la presse sont assommants, là. C'est de voir à quel point c'était désorganisé. Et c'est pas juste mourir de la COVID, c'est la façon dont ces gens-là ont été abandonnés, puis la façon dont ils sont décédés. Puis à quel moment la machine l'a su? Puis je sais que c'est très facile d'envoyer des petits mémos, là, des petits courriels, d'un flou. Ce sont des experts là en confusion, en disant « Non, 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 je l'ai fait. » Mais c'était pas clair, c'était pas précis. Ça, là, il y a des gens qui sont experts pour écrire des espèces de courriels vides, sans trop d'impact, essentiellement pour se protéger les fesses. Si jamais ça dérape, comme ça l'a été. Alors, on va les recevoir vers 9h20 ce matin. Et aussi, ben, dans quelques instants, avec Catherine, on va parler du film Dune de Denis Villeneuve. C'est pas le meilleur film, c'est pas non plus le meilleur réalisateur, mais quand même 6 prix lors de la remise. C'est le film Coda, adapté d'un film français qui s'appelle La famille Bélier, qui a été choisi un peu à la surprise générale. Donc, Catherine s'en vient nous en parler. Puis évidemment, on va parler de Will Smith, qui s'est élevé tout d'un coup parce que Chris Rock, l'humoriste, présentateur, insultait sa femme qui a perdu ses cheveux, est obligée de se raser. Elle a un problème récurrent, puis elle en a parlé. Et l'autre a dit, la tête rasée comme ça, ça fait penser à G.I. Jane, là, l'espèce d'image de Demi Moore à l'époque. Bon, est-ce que c'est une blague super? Peut-être pas. Mais Will Smith est insulté, s'est levé, puis est allé gifler à Chris Rock. C'était jamais vu. Les gens pensaient que c'était arrangé. Mais finalement, c'était vrai. Puis après ça, il gagne l'Oscar du meilleur acteur. Puis là, les gens l'applaudissent. C'était assez surréaliste. Tu sais, qu'un gars soit frustré, je comprends. Qui gueule, ça va. Mais qui se lève, puis qui s'en va frapper l'autre. Puis qu'après ça, revient sous les applaudissements. Quelque chose. Vous allez trouver sur les réseaux sociaux, là, les images non censurées.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, on note une hausse du nombre de cas de COVID au Québec, ce qui était quand même assez prévisible, anticipé. Puis probablement que ça va continuer, mais malgré cela, il n'est pas question, en tout cas pour l'instant, de modifier les règles et donc de revenir à des peut-être des règles plus strictes de confinement ou encore plus sévères. On fait le point ce matin avec Dr. Luc Boileau, qui est le directeur national de la santé publique par intérim. Dr. Boileau, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Première question, votre point de presse hier, à part les questions, ça a duré 10 minutes. J'étais un peu étonné de voir un point de presse dimanche, 11 heures, pour nous dire finalement que ça a augmenté, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus.
Ben écoutez, on avait eu... d'abord, c'est pertinent comme question, parce que c'est rare qu'on le fait le dimanche. Mais on avait eu une journée assez remplie, je vais vous dire très remplie, même samedi, qui s'est conclue par une rencontre avec les autorités gouvernementales pour faire le point sur là où on était et là où on prévoit qu'on va être dans la progression de cette hausse-là. Et ils avaient déjà suggéré qu'on puisse informer la population rapidement lorsqu'il y a des signaux qui nous arrivent. Ce qu'on avait fait la semaine passée, mais là, c'était plus confirmé et ils ont suggéré, puis j'étais d'accord avec ça, là, qu'on le fasse rapidement. Là, la semaine progresserait. Là, normalement, on le fait comme, tu sais, vous savez, on se retrouve à peu près une fois par semaine, puis des fois, on passe une semaine. Là, cette fois-ci, c'était important de situer là où nous étions parce que ça augmente et parce que on comprend aussi que les gens veulent sortir vite, ça, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de signaux, particulièrement à travers les ce qu'on retrouve chez les travailleurs de la santé, de gens qui ne se protègent pas bien et même des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire contagieux 10 jours. Et il y a des gens aussi plus à risque, qui sont plus âgés ou immunosupprimés, qui prennent plus de chances. Et là, ben ça nous gonfle nos hospitalisations.
Bon, il y a, on le sait, différents courants d'opinion, même des experts là, qui sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, mais qui disent... Si on se retrouve avec un variant qui est bien implanté dans la communauté, qui est plus contagieux, qu'on a une hausse des cas, exemple, est-ce qu'on n'est pas mieux de garder de façon obligatoire le masque pendant un certain temps? Là, je sais que vous n'avez pas encore statué, là, on se ramasse, comme on se l'est dit, autour de Pâques, mais il y a des gens qui trouvent que, d'un côté, vous nous dites ça augmente, mais en même temps, ça se peut qu'on se laque encore un peu.
Bon, c'est sûr que la question se pose très bien, là, surtout en ce moment. On a encore 3 semaines devant nous. Là, on va regarder comment que ça va évoluer, puisque vous savez, il y a plusieurs scénarios possibles. On essaye de voir lequel qui est le plus probable, mais il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. On ne peut pas être parfaitement au fait de ça, puisque il semble y avoir effectivement, en fait, c'est pas il semble, il y a une hausse. Et est-ce que cette hausse va continuer à hausser, là, c'est-à-dire à augmenter, ou elle va garder un plateau d'à peu près 100-150 nouveaux patients par jour? Après ça, on verra. Mais chose certaine, c'est que il y a des endroits dans le monde où les courbes ont été inversées assez rapidement. Moi, je prétends pas que ça va baisser immédiatement et je pense que la question est très bonne. Est-ce qu'on doit garder la mesure du masque au-delà du 15 décembre, du 15 avril? On va devoir réfléchir à ça. Beaucoup, on y réfléchit. Pour l'instant, gardons le cap là où nous étions, mais si on doit changer, on va aviser avant, là, bien sûr.
OK. J'aimerais qu'on gratte un peu sur les exemples à l'étranger parce que, bon, l'Europe, on le dit, d'avance, souvent ce qui va nous arriver ici 3 semaines, 1 mois après, là. Ils en sont où en Europe actuellement avec le nombre de cas puis avec le plan des mesures sanitaires?
Bon, la plupart des pays, en fait, la totalité des pays européens ont enlevé les mesures sanitaires dans la progression du mois de même février, mars. Là, le Danemark, c'est un exemple assez frappant. Le UK aussi, l'Angleterre en particulier. Donc, il y a des endroits où les mesures ont été levées plus vite. Et ce qu'on a vu, c'est s'installer une vague qui a amené plus de contagions, évidemment, plus de cas à l'hôpital, pas beaucoup plus au niveau des soins intensifs. Ça, c'est assez frappant. C'est la même chose ici. C'est-à-dire, à la première vague, on avait à peu près 1 personne sur 3 quand il était hospitalisé qui se retrouvait aux soins intensifs. Aujourd'hui, c'est autour de 1 personne sur 20. C'est 5%. Parce que, oui, la maladie peut frapper. Oui, elle peut rendre les gens très malades. Mais c'est beaucoup moins fréquent qu'ils vont les rendre très, très malades. Mais ça existe, ça arrive. Évidemment, on a des décès aussi. C'est tributaire de toutes sortes de conditions, puis en particulier l'âge. Mais ce qu'on voit, pour répondre mieux à votre question, c'est qu'il y en a des endroits où ça commence à baisser. Et quand ça baisse, ben c'est une progression qui est lente. Là. C'est-à-dire, on voit la curve s'installer, puis ça baisse. Maintenant, c'est pas tout revenu normal. Puis il y a des endroits où les taux d'hospitalisation et les taux de cas sont nettement plus élevés qu'ici. On le voit dans le UK, on le voit en France en particulier. Au Danemark, ça a recommencé à baisser, mais au Danemark, ça avait monté. Et le BA2, il s'est surtout installé au Danemark au début. Maintenant, la plupart des pays ont du BA2. Puis nous, ici, ben moi, ça sera pas une grosse prédiction. Là, je vais vous dire qu'il y a probablement déjà les deux tiers des personnes qu'on déclare à chaque jour qui sont du BA2. On va avoir des confirmations progressives dans les prochains jours. Mais c'est installé. Notre difficulté à nous, c'est qu'on a deux Québec. Là. C'est un peu comme, en fait, c'est intéressant, c'est comme l'Écosse et l'Angleterre, où on voit l'Écosse qui remonte plus parce qu'ils ont été probablement moins infectés dans les derniers mois. Alors, ils sont plus, c'est un terrain plus vierge là, pour faire circuler un virus qui se contamine beaucoup plus, qui contamine beaucoup plus. Alors, c'est un peu, c'est pas exactement la même chose, mais nous ici, Montréal augmente, mais ce sont les régions plus éloignées, là, comme la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, où là, on voit des hausses plus importantes, et en particulier chez les travailleurs de la santé. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ces régions-là. Il faut donc rester vigilant, prudent, puis adopter les bonnes consignes.
OK. Je sais qu'on a déjà eu plus de travailleurs de la santé chaos. Mais c'est quand même une augmentation, avez-vous dit, de 60% en une semaine. Comment vous expliquez ça? Là? Je comprends que ce sont des citoyens comme les autres, ils sont parents, ils peuvent être en contact avec la... Mais pourquoi une hausse là, si rapide?
Oui, ça c'est... on voudrait bien avoir la réponse parfaite, mais la réponse la plus juste qu'on va vous donner, c'est que, un, c'est pas acquis en milieu de travail. Donc, la majorité l'ont pas acquis à cause de collègues qu'ils côtoient ou des patients qui sont positifs. Deux, c'est surtout le groupe d'âge du 20-45 ans, là, où est-ce qu'on a des gens qui sont de jeunes familles ou des jeunes adultes et qui, eux aussi, comme tout le monde, ont voulu profiter de la période de relâchement qui était annoncée et se sont rencontrés dans famille, entre amis, etc. Et c'est là où ça a pris. C'est pas beaucoup ceux du milieu scolaire. Hein. Nos absentéismes ne montent pas en flèche. On va avoir des données ce matin, là, j'ai hâte de voir ça, je ne les ai pas encore, mais c'est vraiment une question d'une vie communautaire qui a été normale. Ces gens-là ont travaillé très fort et puis ont besoin aussi de socialiser. Alors, ça arrive, puis il y a aussi, M. Arcan, sachez qu'il y a des groupes, des fois, d'employés ou de médecins ou de professionnels qui se voient, prenez les étudiants en médecine là, de l'Université Laval, là, faire un vin fromage, puis bonjour la visite, là, ça a beaucoup infecté. Les radiologistes du CHUC, c'en est quasiment cocasse, là, ils se voient pour une première rencontre, puis ils l'attrapent à peu près tous. Alors, il y a des groupes comme ça qui s'installent, mais je pense que là, le signal de prudence est de mise. Mais ça n'empêche pas qu'on en a eu. On en a 200 plus de plus là, ce matin là, qui sont en congé.
OK, mais je lisais encore en fin de semaine des gens qui disaient « Oui, mais c'est parce qu'il y a peut-être des problèmes d'équipement de protection. Il y a peut-être encore... Non. On passe du COVID à du non-COVID, puis les gens se croisent comme ça. » Vous me dites que c'est pas le cas, là.
Non, c'est pas le cas. On est vraiment très prudents. Il y a des infections nosocomiales, ce qu'on appelle ces infections pour les patients qui sont acquises à l'hôpital. Ça, on en a un peu plus. On est toujours très, très prudent là-dessus. Mais non, c'est pas un relâchement des mesures qui fait ça. Pas du tout. Là. C'est vraiment une question qui s'est prise dans le milieu communautaire. C'est un peu comme à l'école. Hein. Les enfants, au début, on s'inquiétait beaucoup qu'il y aurait de la contagion entre eux. Mais dans le fond, c'est le relief de ce qui se passe dans le milieu familial. Alors, c'est pas dans le milieu de la santé, c'est comme ça. C'est sûr qu'il peut y avoir des cas de contact entre les employés, là, mais la plupart et l'immense majorité, ça vient de la communauté.
OK. L'autre question, évidemment, à la lumière de ça, puis là, on a vu même le premier ministre, test positif, le ministre Bonnardel, Mme Guilbeault, son enfant, le maire de Laval. À ce compte-là, on se dit, ben tout le monde va finir par l'avoir avec des effets plus ou moins graves.
Bien, à ce compte-là, tout le monde va finir par l'avoir. C'est un virus qui contamine tellement qu'au bout du compte, on va tous finir par l'avoir. L'important, c'est de ne pas l'avoir tout de suite, puis c'est pas de l'avoir tout le monde en même temps. Parce que quand je dis ça, ça c'est mathématiquement ce que je vous dis. J'annonce pas que tout le monde va l'avoir, mais on va. Bon, c'est sûr que l'actuelle poussée qu'on a va faire en sorte qu'il va avoir une immunité collective encore plus grande et qu'on va avoir moins de grosseur de vagues s'il y en a au cours de l'automne, parce que il y a une activité immunitaire qui est en effervescence là, pour une bonne partie de la population, ce qui n'est pas une entre guillemets mauvaise nouvelle. La difficulté, c'est que les gens qui sont à risque de développer une maladie plus grave à cause de leur âge, leur situation de santé, leur immunosuppression, eux devraient éviter là, de côtoyer le virus, puis d'éviter de le côtoyer pour longtemps, parce que, puis le plus longtemps possible, parce qu'on a des nouveaux outils contre cette maladie-là. D'abord, ceux qui sont pas vaccinés, on a le Paxlovid. Là, dans le courant de la semaine, je pense que tout devrait être organisé finement pour ça. Et il y a d'autres produits qui s'en viennent, probablement d'autres vaccins. Ça, on est moins sûr. Là. Les études actuellement de phase 1, phase 2 ne montrent pas que c'est plus efficace que ceux qu'on a déjà. Mais les nouveaux médicaments, il pourrait y en avoir dans la progression de l'année en cours ou des autres années. Alors, restons vigilants. Puis si on a des symptômes, ben évidemment, on s'isole, puis on s'isole 10 jours, là, les 5 premiers jours à la maison, les 5 autres journées en prenant vraiment soin de ne pas contaminer personne. Puis avec ça, on va s'en sortir. Hein. On va s'en sortir.
OK. Comment je vous dirais ça? Ce que j'entends beaucoup des auditeurs, là, c'est de dire, là, le beau temps s'en vient, puis on va être plus à l'extérieur, puis ça va passer. T'sais, on a peut-être un mois de mars, avril, là, mais mai, juin, juillet, août, là, on va être correct. Est-ce qu'ils ont raison de penser ça?
Je pense que oui. Je pense que la plupart des gens ont un espoir réaliste de ce côté-là, puisqu'il est juste que avec le beau temps arrive, bon, les sorties, les gens se voient dehors. C'est pas la même contagion lorsqu'on est dehors que lorsqu'on est en dedans. C'est sûr qu'on a beaucoup de cas d'éclosion, pas actuellement, là, mais on les a documentés comme il faut, des pique-niques. Là, on est assis un en face de l'autre, on parle, on jase de proximité. Ça, c'est sûr que ça peut arriver, ça arrivera. Mais d'une façon générale, quand on est à l'extérieur, c'est moins à risque que lorsqu'on est à l'intérieur. Et en ce moment, il fait encore... T'sais, on est encore dans une disposition pour l'ensemble de la province où on est à l'intérieur. Il fait de plus en plus beau, là, mais il n'y a pas de terrasse ouverte, on fait pas de party dehors. Alors, c'est l'intérieur qui continue à nous jouer des tours, mais sûrement que la période vraiment printanière solide là, et estivale va nous aider beaucoup. Et puis, cette vague-là, lorsqu'on la regarde en Europe se profiler, elle n'a pas tendance à vouloir s'allonger jusqu'à la fin de l'été. Là. Donc, il y a un espoir réel. Okay. Mais en ce moment, prenons soin de nous, puis prenons soin des autres.
En terminant, au chapitre de la vaccination, est-ce qu'on a atteint comme une espèce de sommet, là, notamment pour la troisième dose? On a l'impression que les gens se sont rapidement, là, majoritairement, déplacés pour aller se faire vacciner, première, deuxième. Puis là, la troisième, il y a comme une hésitation.
Il y a une hésitation qui était due pour beaucoup, pour vraiment beaucoup de monde, au fait qu'ils avaient déjà eu 2 doses et ils ont fait l'Omicron. Et ils se sont dit, bon, moi j'ai fait l'Omicron, là on me dit que je peux attendre 8 à 12 semaines. Là. Mais là, on commence à voir des gens qui reviennent pour la troisième dose, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Puis pour la quatrième, c'est-à-dire le booster de plus là, qu'on offre à compter de demain dans les CHSLD, les RPA progressivement et les gens de plus de 80 ans, c'est eux, je pense, qui sont les plus invités à aller de ce côté-là, là, pour des raisons que vous imaginez bien.
Ouais.
Et de ce côté, ça va bien aller. Pour la question de la troisième dose, ben, tous ceux qui veulent en profiter peuvent en profiter. Tous les services sont disponibles. Puis moi, j'encourage à l'avoir parce qu'on est quand même à peu près encore à 6 mois de distance de la période automnale à laquelle il faut vraisemblablement s'attendre, comme pour l'influenza, d'avoir une hausse, là, mais pas une affaire là, qui va nous jeter à terre. Ça dépend, là, bien sûr, si on a un nouveau variant et des choses qui sont dramatiquement changées par rapport à l'Omicron ou le BA2, si on est toujours à risque pour ça, mais quand on regarde le plus loin qu'on peut avec ce qu'on connaît actuellement du BA2, on devrait être pas trop pire. Puis sachez que le BA2, il est très contagieux. Pour qu'un variant qui va nous faire plus mal, qui va être plus virulent, va falloir qu'il soit plus contagieux que le BA2. Bon, c'est possible, hein, tout est possible, mais on va y souhaiter bonne chance, puis on souhaite surtout qu'il arrive pas.
Merci, Dr. Boileau. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Dr. Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, on va regarder la situation dans les résidences pour aînés au Québec. La presse nous dit ce matin que depuis le début de cette pandémie, et même depuis le mois de janvier, il y a un an, un peu plus d'un an, il y a des dizaines de résidences privées au Québec qui ferment leurs portes. Toujours un peu la même chose. C'est-à-dire le manque de personnel, le budget extrêmement serré. On sait qu'il y a une compétition aussi avec le réseau public. Marc Fortin est le PDG du regroupement québécois des résidences pour aînés. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Si vous aviez à me faire un tableau ce matin du nombre de résidences privées là, qui ont fermé leurs portes ou qui vont aussi fermer leurs portes, on parle de combien d'établissements?
Dans la dernière année, on parle de pas loin de 150 résidences qui ont fermé, juste dans la dernière année et quelques mois.
OK, ça représente combien de places, ça?
Ça représente, c'est des moyennes, mais ça représente à peu près 2500, presque 2800 places.
Et là, ce sont vraiment des établissements qui ferment, là, qui sont pas opérés par quelqu'un d'autre, ce sont des places qui sont perdues.
Ah non, des places perdues. Là. Les gens n'avaient pas de relève, n'arrivaient plus à faire marcher les finances ou étaient épuisés, puis ont carrément fermé la résidence. Là.
OK. Est-ce qu'il y a des régions, on va aller aux causes tantôt, là, mais est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres?
Définitivement, les régions sont plus touchées. On pourrait parler de Chaudière-Appalaches, entre autres, Montérégie, Bas-Saint-Laurent sont trois des places qui sont les plus touchées.
OK. Et pourquoi? Pourquoi la situation financière est à ce point difficile qu'on doit fermer?
Mais il y a plusieurs éléments. Je vous dirais que, surtout pour les titres, souvent, il n'y a pas eu d'augmentation de loyer depuis longtemps parce que les aînés n'arrivaient pas, la personne a la main sur le cœur, elle a dit « Oh non, je vous augmente pas ». Mais à un certain moment donné, la banque cogne à la porte et dit ben, « Vous n'arrivez pas, vos chiffres sont pas bons, on retire nos prêts ». Puis la personne se retrouve évidemment dans le trouble. Vous savez, au Québec, on a des loyers. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans le dernier mois, mais on a les loyers pour les aînés les plus bas de tout le Canada, de loin les plus bas. Donc, les gens n'arrivent pas à faire équilibrer l'augmentation des coûts qui est explosive depuis deux ans et les revenus qui rentrent de l'autre côté. Fait que les financiers sont là à la porte puis ils disent « ben vos chiffres sont pas bons ». Fait qu'on retire nos prêts. Fait que beaucoup de résidences ont de la misère à se financer ou à aller de l'avant.
Et à trouver du personnel aussi?
Oh, ça, c'est le deuxième élément qui est de principe, de base, là. Trouver des éléments, des employés ou avec la pénurie de main-d'œuvre ou avec les situations qu'on a eues avec le public, c'est-à-dire les subventions qui ont été mises en place, qui ont fait en sorte que ça crée un exode des employés qu'on avait déjà.
Mais vous savez que demain, le ministre Christian Dubé va déposer son plan santé, là. C'est très large. Mais, puis on a ouvert, puis on a annoncé la construction de maisons des aînés. Ces gens-là, là, c'est quelques 2000 personnes, en gros, là, qui doivent quitter. Ils vont où?
Ben, la plupart, c'est sûr que c'est retravaillé avec les CIUSSS, locales pour essayer de les replacer dans des CHSLD, des RI, dépendant des besoins et des capacité de chacun, là. Mais tout le monde doit être replacé. Puis moi, je veux dire, j'ai eu des propriétaires de résidences qui m'ont appelé, qui pleuraient, qui disaient « Je suis plus capable, je suis à bout, je vais laisser ma santé, j'ai laissé mes économies déjà. Puis là, il faut que je replace mes aînés, je suis plus capable, ça me brise le cœur. » Les gens pleuraient au téléphone, mais ils sont plus capables, ils sont à bout. Donc oui, ces gens-là, il fallait les replacer, puis on travaille avec le gouvernement pour les replacer dans d'autres endroits. Ce qui est plus dur encore, c'est de déraciner des aînés, parce que on parlait du Bas-Saint-Laurent, on parlait de certains endroits qui sont en région, mais il n'y en a pas d'autres résidences, il n'y a pas de grosses résidences non plus qui peut accueillir beaucoup de monde. Donc, ces gens-là, il faut les déplacer dans une autre région. Puis c'est ça qui est déchirant.
Ça coûte combien vivre dans une résidence pour personnes âgées? Je comprends qu'il y a des différences, là, l'espace, bon, les régions, mais ça se promène entre quoi et quoi? J'ai aucune idée.
Ben, écoutez, si on regarde la dernière étude de la SCHL qui a été faite au Québec, la moyenne, c'est 1844. Fait que ça, c'est la moyenne pour être en résidence. C'est 1844. Puis on se compare à l'Ontario, c'est 3865 par mois en Ontario, puis en Colombie-Britannique, c'est 3364. Fait qu'à 1844, on est dans les plus bas, mais il faut être capable de se le payer. Mais là, ça va varier entre 800 $ par mois, puis peut-être 3 000 $ par mois, 4 000 $ par mois si vous avez une penthouse d'une grosse résidence. Fait que c'est sûr que ça va varier. Puis là, on rajoute les soins par-dessus ça, évidemment.
Mais en conclusion, là, je comprends la bonne volonté de tout le monde, là, mais si vous avez de la difficulté à recruter du personnel, on a l'impression que ça va coûter de plus en plus cher. Puis avoir peut-être moins de services?
Mais ce qui va arriver, c'est que la plupart des résidences vont arrêter les services de soins parce qu'on n'aura plus d'employés ou on ne sera pas capable de garder les employés. Donc, ça va être un logement avec la nourriture aux besoins si la personne ne veut pas faire à manger ou ne peut pas se faire à manger. Mais les soins vont être redonnés au CIUSSS, au CLSC. Mais vous savez que quand un CLSC vient donner des soins dans une résidence, ça coûte entre 7 et 9 fois plus cher que quand les gens de la résidence, les employés de la résidence donnent les soins.
Mais ça, ça veut dire, que je comprenne bien, vous dites, OK, on va les héberger, on va les nourrir, mais quand, par exemple, pour les services, l'aide au bain, l'aide pour les habiller, ben, ils enverront quelqu'un du CLSC.
Ben, c'est ce qu'ils vont être obligés de faire parce que les gens n'ont pas d'employés, mais ils ne seront pas capables de les garder non plus.
OK, M. Fortin, merci. Bonne journée.
Merci, M. Fortin.
Au revoir. Marc Fortin est le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés. C'est demain, le plan de M. Dubé. Et c'est un enjeu, ça. Puis les centres de soins de longue durée. Et en passant, on va recevoir tantôt Ariane Lacourcière, Katia Gagnon et également Gabriel Duchesne pour parler du livre sur la crise, l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée lors de la première vague. Puis quand on voit quand on lit le livre, on s'aperçoit que, tu sais, on peut avoir l'impression que, on a fait le tour, on a un rapport de coroner, puis tout est correct. Ben non, tout n'est pas correct, puis il y a encore bien des choses à dire. Et notamment, surtout à la veille de la présentation du plan du ministre Dubé, là, quel est le pouvoir de Marguerite Blais? Quel est le pouvoir des fonctionnaires? À quel moment ces gens-là savaient ce qui se passait? Pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé des personnes âgées? Je comprends qu'on voulait avoir de la place dans les hôpitaux, là, mais on les a envoyés dans des endroits qui n'étaient pas équipés. Puis comme j'ai tout le temps dit, mourir, c'est une chose. Mourir comme ils sont morts, dans bien des cas, c'est dégueulasse. Puis il y en a 5000 et quelques. Puis on veut pas d'enquête publique, puis on veut détourner le regard, puis on veut pas qu'on parle de ça. On n'a pas le droit de se scandaliser, d'être outré. Tu sais, des fois, ça fait du bien juste d'être un petit peu... Non, c'est correct. Tous les rapports sont là, puis c'est réglé.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, soirée des Oscars, vous entendez Beyoncé, mais c'est une soirée un peu surréaliste avec Will Smith qui s'est fâché puis qui a frappé, en fait. Il a donné une claque au visage du présentateur et humoriste Chris Rock.
Oui, et c'est particulier parce que on devrait parler davantage de Dune, ben qui a remporté 6 prix, et c'est le film qui a remporté le plus de statuettes hier, film de Denis Villeneuve, mais malheureusement, ce qui a marqué la cérémonie, tu le dis, c'est ce que tout le monde parle ce matin, c'est de cette gifle de Will Smith à Chris Rock. Mise en contexte, l'humoriste Chris Rock, c'est quand même un humour particulier. Il vient présenter un prix, fait une blague de mauvais goût sur la femme de Will, Jada, sur ses cheveux rasés. Ben, elle souffre de la pelade, donc elle perd ses cheveux. Elle en a parlé à plusieurs reprises dans des émissions. Donc, elle a les cheveux rasés. Et il fait la référence avec G.I. Jane, qui était jouée par Demi Moore, qui s'était fait raser les cheveux. Et il a dit, elle pourra faire le G.I. Jane 2. Voilà. Là, au début, on voit Will, il rit, il trouve ça drôle. Les gens dans la salle rient aussi. Puis il avait fait des blagues sur d'autres couples aussi avant, qui trouvaient ça très, très drôle. Et là, il arrive sur scène, Will Smith, on le voit venir de nulle part. Il gifle, mais vraiment très, très fort, l'animateur. Et là, qui est un petit peu surpris. Puis là, on se dit que tu as arrangé que le gars des vues, on est aux Oscars, peut-être quelque chose de cinéma, mais non, pas du tout. Et là, je vais vous faire entendre, en fait, la séquence non censurée. Parce qu'on a vu à la télé, tout de suite, on a censuré. Mmh. Il y a eu un blanc. Et là, vous allez entendre le coup aussi de Will Smith et crier aussi par la suite d'arrêter de parler de sa femme.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Wow, dude.
Yes.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay?
What?
C'était intense.
Intense?
très, très intense. Moi, j'ai tellement eu un malaise de cette violence-là. Puis même les gens dans la salle, écoute, il y a eu un froid pas possible. T'sais, au début, ça riait un petit peu jaune, mais après, ça riait pas du tout. Là. Surtout quand Will Smith a continué à crier, puis il l'a crié plusieurs fois aussi. Et quelques minutes après, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour King Richards, a mentionné que comme son rôle de Richard Williams, le père des sœurs Williams dans le film, il était là pour défendre sa famille, qui était une courroie de transmission d'amour, et s'est excusé pour son comportement.
I want to be a vessel for love. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees.
Mais il s'est pas excusé à Chris Rock.
Exactement. Et moi, je suis désolée, mais c'est de la violence en pleine télé. Tu sais, tu fais ça n'importe où, là, dans un bar, à l'extérieur, peu importe, t'es arrêté. C'est un crime.
Mais
là,
Chris Rock veut pas porter plainte non plus. Là. Il y a personne qui veut que ça tombe entre les mains de la police.
Exactement, c'est surréaliste. Puis là, je regardais sur les réseaux sociaux, il y a toujours les parties du Vanity Fair. Puis on voyait Will Smith qui était enlacé par les autres comédiens, les acteurs aussi, qui dansaient avec son Oscar. Tu sais, ça avait l'air d'être la grosse, grosse fête quand même. Mais je pense qu'il va devoir répondre de ses actes. Et l'Académie, d'ailleurs, des Oscars a écrit sur les réseaux sociaux après l'incident qui condamnait évidemment le geste, qui condamnait toute forme de violence.
Mais tu sais, je vois les commentaires là, des auditeurs qui, depuis hier soir, entrent, puis il y a des gens qui disent « Ouais, mais il a défendu l'honneur de sa femme, puis il a défendu, puis c'était correct, puis c'est un pro-chevalier, un pro-chevalier, pardon. » Tu peux pas te lever dans une salle en plein galop aller frapper quelqu'un. Tu vas pas frapper quelqu'un tout court.
Ben non, puis tu peux ne pas être d'accord avec la blague. Elle était plate. Puis Chris Rock, c'est pas mon meilleur. Mais en même temps, une fois que tu le dis, c'est quoi? On va commencer à se donner des claques au visage à chaque fois qu'on est pas d'accord avec quelqu'un.
As-tu pensé au gala des Oliviers? Toi, il y aurait une coupe de claques qui aurait revolé. Non, mais tu comprends, ça avait été ça, là.
Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on va devoir en reparler de ce geste de Will Smith. Puis là, parlons du positif, parce qu'il y a eu quand même Dune. C'est le film qui a remporté le plus d'Oscars de la soirée. Et c'est tout un honneur, puis un pied de nez également pour Denis Villeneuve, qui était même pas en nomination comme meilleur réalisateur. Mais tout au long de la soirée, Denis Villeneuve a été encensé par les gens qui remportaient les prix, dont Patrick Vermette, qui a remporté l'Oscar de la meilleure direction artistique, qui a tenu à saluer aussi Jean-Marc Vallée.
Denis, thank you for allowing us to dream, and thank you for being a great friend. I owe this to you. And a special thank you to Jean-Marc Vallée, my friend.
C'est un moment quand même assez touchant. Et c'est le film Coda, adaptation de la famille Bélier, qui est reparti avec l'Oscar du meilleur film. Un film qui est présenté sur une plateforme numérique. Ça, c'est la première fois que ça arrivait sur Apple TV. Moi, je vous avoue que c'est pas le film que j'aurais fait gagner. C'est un film correct, mais c'est une adaptation d'un film français. Je trouvais ça plutôt ordinaire comme prix, en fait. Jane Campion, meilleure réalisatrice pour The Power of the Dog, troisième femme seulement à remporter un Oscar. Et c'était trois femmes aussi à l'animation. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hall. J'ai aimé beaucoup le ton corrosif d'Amy Schumer. Donc, on pourra entendre l'extrait tout à l'heure de Amy Schumer qui a dit d'ailleurs qu'engager trois femmes, c'est moins cher que de payer un homme. Alors, imaginez, elle avait pas tort quand même. Elle a parlé aussi de Leonardo.
Mais ça, on l'a déjà entendu, celle-là.
Ouais, j'avoue que c'est pas la plus originale, mais quand même. J'étais quand même aussi déçue de voir qu'il y a pas beaucoup d'acteurs qui se sont levés pour l'Ukraine. On a fait une minute de silence à un moment donné. On a fait apparaître, bon...
Il y a une rumeur qui voulait que Zelensky prenne la parole durant la soirée, mais ça s'est pas concrétisé.
Non, ça s'est pas concrétisé. Puis je pense qu'il y avait d'autres choses à faire aussi, là.
Probablement, mais c'est quand même une tribune. Là.
Exactement, puis je pense que le producteur voulait pas vraiment qu'il parle non plus à la télé. Puis il y a pas d'acteur qui a fait de discours anti-guerre, à peine voilé. Francis Coppola qui a dit, bon, je suis pour l'Ukraine et tout ça, mais à part de ça, il y a pas personne qui l'a fait. Je pense que ça aurait été un bon moment peut-être de parler davantage que de robe, de statuette, tu sais, des priorités dans la vie.
Merci.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.